Voilà, Onde Noire, avec son
voilà,
générique.
Voilà, avec le vrai générique, voilà, Onde Noire, deuxième partie. Jacques, ça va être à ton tour de nous parler des... pas des romans, non. Mais des titres qui t'ont interpellé ces temps-ci.
Oui, bah alors là, c'est vraiment un super coup de cœur, ça serait la BD du trimestre, peut-être même de l'année.
Voire de la... Non.
Voilà, non, enfin, dirigeant, peut-être pas. Et donc, en fait, et ça peut très bien faire une superbe idée de cadeau.
Ah oui.
C'est le Dahlia Noir de James Ellroyd, adapté par David Fincher, Matt, et mis en image par Miles Eman dans la collection Rivage Casterman Noir. Alors, mettre des couleurs sur un roman aussi noir que le Dahlia Noir, qui est quand même le roman, disons, emblématique de James Ellroyd.
Certainement son plus connu, en
voilà,
tout cas.
Voilà, c'était quand même un pari plutôt risqué. En même temps, dans cette collection, donc Rivage Casterman Noir, je le disais, qui existe depuis 5 ans, ça. Il devait y avoir un Ellroyd dans le catalogue. Ellroyd, c'est quand même le fleuron, le navire amiral, je dirais, du rivage de François Guérif.
Bon, le tout était que Ellroyd soit d'accord.
Le tout était que Ellroyd soit d'accord, exactement. Et se sont mis à trois pour le convaincre, en fait. Un Américain, qui est cinéaste, David Fincher, qui est connu, par exemple, pour Seven ou Fight Club, entre autres. Un Français, qui est un scénariste de renom dans la bande dessinée, Matt, qui est aussi, d'ailleurs, un des co-directeurs de la collection. Et un dessinateur, Miles Eman.
Lui,
il est américain aussi. Mais enfin, il est presque français. En tous les cas, il est francophile. Il vit à Paris depuis des années. Même s'il a vécu à Los Angeles, ce qui l'a probablement aidé pour les dessins de cette BD. Pour parler de chiffres, pour commencer, les presque 500 pages du roman ont été traduites, enfin, transformées en 170 planches. Les 85 personnages qui sont importants dans ce roman, parce que quand même, il y en a beaucoup, et ça, c'est un des trucs d'Ellroyd, de mettre beaucoup de personnages, de les faire s'entremêler, ils ont été réduits quand même à une grosse moitié, au dire de Matt, pour pouvoir les faire rentrer dans ces 170 planches. Ils se sont donc mis à deux, je le disais, pour faire l'adaptation. D'abord, David Fincher avait travaillé préalablement à un scénario pour le cinéma. Et puis le projet n'a pas abouti. En fait, c'est Brian De Palma qui a fait un film sur un autre scénario. Un film, bon.
On n'a pas le droit d'en dire du mal.
Voilà,
du
donc, pas aussi réussi qu'il aurait pu l'être, disons. En tous les cas, pas à l'image du roman. Et donc, David Fincher, avec le scénariste Matt, ont repris une partie de ce travail pour en faire un scénario de bande dessinée. Lequel scénario, tu le disais tout à l'heure, a eu l'aval de James Ellroyd lui-même. Et j'imagine assez les trois compères attendant à Paris, comme ça,
yes.
La vie du maître.
Yes, you can.
Voilà. Et il aurait dit fantastic works. Donc, ce qui est quand même pas... lui, il n'est pas si gentil que ça pour...
Il peut être avare de compliments, mais voilà. Miles Eman, c'est vrai.
Et après, c'est Miles Eman qui a dû bosser. Il avait quand même fait quelques personnages pour me les montrer à Ellroyd, et là, il a dû bosser, et il dit qu'il a fallu près de 2 ans pour réaliser les 170 planches. Ce qui fait, en fait, quand même pas mal de dessins, puisque quasiment toutes les pages ont 3 strips, donc soit 3 bandes, en fait, de 3 cases. C'est fini, là, il a un peu abandonné les pages entières, comme dans la précédente adaptation qu'il a fait, d'ailleurs, avec Matt, dans cette collection, c'était le Nuit de Fureur de Thompson, où il y avait quand même des pages entières de magnifiques dessins. Là,
c'est le numéro 1 de la collection.
Voilà. Et c'est les 3 premiers qui étaient sortis. Et là, donc, la vraie réussite de ce projet, en fait, de ce Dahlia Noir, c'est l'univers visuel qu'a réussi à créer Miles Eman. Tant les dessins, les personnages, tant les hommes, les 2 flics, boxeurs, Lee et Bucky, que les femmes, Fatal ou pas, Kay, Madeleine et aussi Elizabeth Short, la fameuse Dahlia Noir.
Oui, parce qu'il faudrait peut-être à un moment donné dire un tout petit mot.
C'est vrai, le roman est tellement connu que j'ai l'impression que tout le monde l'a lu ou a vu le film, mais en fait non, pas forcément. Tu veux le
donc,
faire
on peut voilà, on peut résumer. C'est donc James Ellroy s'inspire quelque part de sa propre vie et d'un événement réel, d'un fait divers réel qui l'a hanté et qui le hante toujours, puisque c'est une affaire non résolue de la police de Los Angeles. Une jeune starlette, donc Elizabeth Short, tu viens de citer son nom, est découverte au petit matin, je ne me souviens plus exactement...
Le 15 janvier 1957.
Voilà. Assassinée et en gros à peu près découpée en deux au niveau de l'abdomen.
Atrocement mutilée,
voilà.
Carrément coupée en deux, effectivement.
Éviscérée. Et les flics qui ont commencé à enquêter dessus, c'est devenu une véritable obsession.
Voilà.
Et ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi devenu une obsession pour James Ellroy, mais cette obsession a terminé par un chef-d'œuvre, parce que Le Dahlia Noir, c'est un des plus grands romans noirs qui a jamais été
voilà,
écrit.
Parce qu'en même temps, la propre mère de James Ellroy, je le rappelle, est morte, a été retrouvée, était aussi actrice, et est morte, est retrouvée morte, assassinée, sans qu'on ait jamais su qu'il avait fait. Donc, je disais, et en fait, voilà, et donc, il y a aussi donc, deux flics qui vont enquêter, qui sont deux anciens boxeurs, et il va y avoir un triangle amoureux entre les deux flics avec la femme de l'un d'eux. Et puis, il va y avoir l'arrivée de la vénéneuse femme fatale qui va les plonger, les deux flics, et puis les deux femmes, bien plus loin qu'ils ne pensaient. Mais voilà, et donc, je disais que l'univers qu'a réussi à recréer Miles & Mann est vraiment magnifiquement réussi, tant les personnages que les décors, les accessoires presque, parce qu'en fait, ça se passe dans le Los Angeles des années 40, je disais 57, mais je crois que c'est en 47. Et surtout, cette lumière que Miles réussit à rendre. Il est resté fidèle à son ocre orange qu'il utilise beaucoup, mais là, son trait a quand même pas mal changé. Il est passé au crayon gras, et du coup, il a délaissé son fusain pour faire les ombres. C'est seulement avec les différentes aplats de crayons qui fait les ombres, et ça donne... Les images, en fait, ont un volume, plus de volume qu'à l'habitude, en fait. Ce qui augmente...
Sur moi, c'est pas un roman graphique en trois dimensions.
Non, pas du tout. Mais ça augmente encore l'impression de malaise et de noirceur, parce qu'on est vraiment carrément plongé dans cette ville qui, je rappelle, à cette époque, à la fin de la guerre, en fait, Los Angeles est une ville complètement en mutation. Ça parle de, elle passe de petite ville à la mégapole qu'elle est devenue maintenant.
Et c'est le lieu favori de James Ellroy, voilà. Puisqu'il en a fait après le quatuor de Los Angeles.
Exactement. Et bon, et c'est effectivement cette ville qui est la véritable héroïne, une ville d'Amérique glauque, crasseuse, pourrie. Je parlais des dessins, mais il faudrait revenir aussi au texte, parce que en fait, les auteurs ont choisi de garder le texte d'Ellroy tel quel, conservant quasiment tous les dialogues. Évidemment, quand on a la patte d'écriture de l'auteur James Ellroy, ça aurait été dommage de les supprimer. Et donc, il garde vocabulaire, argot, allitération, le rythme, parfois même un rythme syncope jazz qui marche très très bien. Du coup, en fait, j'ai presque un petit regret avec ces dialogues, parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup. Et parfois, ils empiètent un peu sur le dessin. On aimerait bien... Mais évidemment, c'est...
Le problème, c'est que là, tu peux pas couper le son comme...
Mais on aimerait bien avoir une version muette, sans bulle, en fait, ni encadrée, pour pouvoir profiter du magnifique travail de Miles & Mann. Bon, évidemment, on peut toujours aller voir, et je sais qu'il avait fait une exposition de ses planches à l'occasion de la sortie. Peut-être qu'elle tournera cette expo.
Ça, ce serait une très bonne idée.
Donc, je signale qu'il existe aussi deux versions, donc une standard à 20 € et une de luxe avec une couverture différente et un peu plus de, et évidemment, quelques pages en plus, et la couverture différente et un peu plus sexy. Et voilà, donc pour votre Noël ou celui d'un ou d'une amie, je pense que c'est une très bonne.
Voilà, je crois qu'on vous a donné des bonnes idées. Donc, encore une fois, ce ne sont que quelques idées avec ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission. Mais il suffit d'aller chez son libraire et on a plein d'idées. Pour le prix d'un bouquet de fleurs, eh ben, on a un bon livre et on peut se régaler. Et c'est quelque chose qui reste.
Ça dure plus longtemps, on n'a pas besoin de l'arroser.
C'est vrai.
Ça fane pas.
Oui, que davantage d'acheter un livre et d'offrir des livres, franchement. Voilà, donc j'espère que vous allez aller courir chez vos libraires. Juste puisque tu finis une BD, un roman graphique, je voudrais parler juste aussi une autre idée, autre roman graphique qui a un très très grand succès, Blast de Manu Larcenet. Voilà, 3 volumes déjà parus. Cette obèse de 150 kilos qui se confesse dans le commissariat pour expliquer son mal-être. Voilà, c'est une des réussites de ces 3-4 dernières années. Donc il y en a 3 volumes, là encore, vous pouvez aller en piocher 1, 2 ou 3. Voilà.
Lui aussi d'ailleurs a eu le trophée 813 de la bande dessinée.
Voilà, il vient de l'avoir fin novembre, exactement. Pour le 3e volume qui était sorti en 2012. Alors, le morceau de musique que tu vas nous présenter maintenant, en fait, il fait référence au livre dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que un des personnages de Criaco adore écouter celui dont tu vas nous parler 30 secondes à plein tube dans la voiture.
Et donc, celui dont je vais parler, c'est Robert Plant.
Led Zepp!
De Led Zepp. Là, c'est un morceau sans Led Zepp, mais avec son groupe Band of Joy. C'est un enregistrement du 29 octobre 2010. Et le morceau que nous allons écouter, c'est Gallows Pole, une vieille chanson traditionnelle.
Thank you.
Robert Plant, Gallows Paul, version quand même assez différente de celle qui était sortie dans Led Zepp 3. Et bon, en même temps, il n'y a pas Jimmy Page, donc il valait mieux qu'ils essayent de faire autre chose.
On va peut-être parler littérature maintenant.
Oui. Voilà. Donc, un roman de Stéphane Mani, qui s'appelle Présage, qui est paru à la Série Noire de Gallimard. C'est son troisième roman de Stéphane Mani, qui est traduit, comme la plupart des romans de l'Islandais, par Eric Bourri.
Donc son Parce que Stéphane Mani, comme son nom ne l'indique pas, est Islandais.
Voilà. Je disais deux informations en une, et nos auditeurs savent trier. Donc le premier roman, on avait parlé ici, s'appelle Noir Océan, et il est réédité dans la collection Folio. Pardon. Ce roman raconte la vie de Rafn. C'est difficile à prononcer, ça s'écrit
H-A-F-N.
Voilà.
Voilà, oui, oui.
Rafn. Ce roman raconte la vie en trois parties, en fait, de ce jeune homme. Une partie très courte, en forme de prologue, sur un bateau de pêche qui coule au large des côtes d'Islande. Impressionnante de réalisme, comme l'été Noir Océan. Rafn survit au naufrage. Puis, dans une seconde partie, elle se situe dans la petite ville, la bourgade de Sudavik. Orthographe pas garantie, enfin prononciation en tous les cas, parce que c'est écrit avec un décourbe, et il semblerait que d'après mes sources, que le décourbe se prononce comme un Z. Donc ça serait Suzavik. Rafn est un petit peu plus vieux. Et dans cette partie, il survit à une avalanche qui détruit une grande partie du village et décime toute sa famille. Par chance aussi, enfin façon de parler, dans cette époque-là, il va aussi découvrir l'amour avec la belle Maria, qui elle va découvrir en même temps la drogue, les dealers, puis le quitter. Longtemps plus tard, on arrive dans la troisième partie, Rafn est devenu flic comme il avait toujours voulu depuis le naufrage, pour quitter son patelin, faire un métier utile. C'est un bon flic, féroce mais efficace. Mais bien que le temps soit passé et qu'il soit désormais marié, il n'a pas renoncé à tirer Maria des griffes de son dealer amant souteneur. Le roman est classé en thriller par Gallimard sur la quatrième de couverture. Mais Stéphane Mani a un vrai talent pour mélanger les genres. C'est assez vrai pour la toute fin du roman, c'est un vrai thriller, on frile complètement, on reste accroché au bouquin, sans pouvoir le lâcher, pour savoir ce qui va arriver à Rafn, Maria et Simon le dealer. Sans compter qu'on est très souvent dans la fin dans une superbe Chevrolet Chevelle 1968, ce qui fait qu'on est vraiment obligé de s'accrocher. Mais le tout début du roman, c'est un roman d'aventure avec les vagues qui tapent contre la coque qui craque.
Puis de la Chevrolet ?
Non, pas de la Chevrolet, mais du bateau de pêche que j'ai dit au début.
Il faut suivre.
Un petit peu au début.
Et oui, on est dans la première partie là.
Voilà. Puis ensuite, dans la deuxième partie, ça devient du roman noir. Du polar, du roman noir, avec l'histoire de Rafn, ce type un peu paumé dans la vie. Il est grand, fort, mais il est asthmatique. Il est incroyablement chanceux, il est réchappé au naufrage du bateau, à la coulée de neige qui a emporté tout le monde. En même temps, il n'a vraiment pas de peau parce que ça lui tombe sur lui. En fait, si on replaçait cette histoire dans un patelin du centre mou des États-Unis, on pourrait presque avoir du Jim Thompson. Peut-être pas quand même. Mais en fait, ce mec-là, son seul espoir dans la vie, au début, c'est de ne pas travailler toute sa vie dans l'usine de conditionnement de crevettes, ou alors de ne pas travailler comme au déneigement des routes. C'est vrai qu'en Islande, le déneigement des routes, c'est quand même un boulot à temps plein, mais quand même, voilà, donc il s'en sort. Alors c'est un vrai un roman très très étrange, parce qu'en fait, les genres sont mélangés, c'est magnifiquement écrit.
C'était déjà
vrai de Noir Océan, un petit peu moins vrai du second, dont on n'a pas parlé du coup. Et en plus, comme dans le premier roman, il y a une chanson qui revenait en leitmotiv dans Noir Océan qui s'appelait Strange Day des Doors. Et là, c'est The Wind Cries Mary de Jimi Hendrix que nos fidèles éditeurs ont pu entendre dans notre précédente émission. Et cet homme, donc, en plus de bien écrire, eh ben, il faut dire qu'il a très bons goûts musicaux. Donc, on s'en félicite pour lui et pour nous.
Oui, c'est-à-dire qu'il a tes goûts musicaux. Voilà. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne fin d'année. On espère que vous allez avoir quelques moments pour vous procurer les livres dont on vous a parlé et puis pour les apprécier. Et puis, ben, je crois qu'on va se retrouver l'année prochaine, chacun dans son coin, avec un bon bouquin.
Au revoir, Corinne, et bon anniversaire à Keith Richards.